Vous écoutez toujours Passage et Richard Roulet est avec nous au micro de Radio Campus. Bonsoir Richard.
Bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous dans les studios. Il y a toujours Alex et Elsa. Ça va vous aussi ?
Ça va toujours.
Ça va aussi.
On passe un bon moment toujours le mercredi. Richard Roulet, vous êtes auteur, romancier, scénariste et encore plein d'autres étiquettes qu'on peut vous accoler. Donc vous écrivez beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous présenter plus en détail auprès de nos auditeurs ?
Bah, vous l'avez fait.
Je l'ai fait super
voilà,
bien.
Yes. Je suis auteur, scénariste, romancier. Alors, voilà. En fait, en France, on est souvent mis dans des cases. Et moi, dès le départ, je ne voulais pas être dans une case. Donc, j'essaye de me promener un petit peu partout.
Et voilà, vous n'aimez pas les cases, Richard ?
Non. Bah, déjà, je ne rentre pas dedans, physiquement.
Alors, on peut peut-être revenir sur votre parcours parce que vous êtes autodidacte.
Oui. Alors, le parcours, bah, ça va être vite vu. En fait, comme souvent, les gens disent « depuis tout petit, je rêvais ». Alors, moi, c'était pas ça. C'est qu'en fait, depuis tout petit, j'écris beaucoup. Même au collège, mes profs souvent m'engueulaient parce que j'écrivais, je faisais trop long. Les fameuses rédactions que tout le monde détestait, moi, il fallait m'arrêter. Il fallait me dire « tu fais que deux pages ». Donc, c'était un truc que j'aimais beaucoup. Et j'ai jamais eu la prétention de vouloir faire du cinéma. Souvent, les gens disent, moi, je voulais être acteur, je voulais être actrice. Pas moi. Alors, ça m'intéressait, le milieu du cinéma, du théâtre aussi. Mais le côté derrière m'intéressait plus. J'avais pas envie d'être mis en avant, en fait. Bon, les émissions comme aujourd'hui, ça tombe mal, du coup, pour pas être mis en avant. Mais c'est vrai que c'était pas mon truc, en fait. Mais ça me titillait. Et en fait, j'ai commencé à écrire des histoires qui ressemblaient à rien. C'était mes premières histoires. Et un jour, il y en a une qui était un petit peu plus intéressante. Et je me suis dit, tiens, plutôt que faire un roman... En fait, j'essayais de faire des romans, moi, dès le départ. Et plutôt que faire un roman, je me suis dit, finalement, un scénario, ça a l'air d'être vachement plus simple. Parce qu'il n'y a pas tout... Mais justement, toute la partie romancée, elle n'y est pas. Donc je me disais, tiens, je vais peut-être plutôt faire ça. Et je ne savais pas du tout comment ça se présentait, en fait, un scénario. Et alors ça s'est fait, depuis on s'est croisés sur des festivals, donc ça le fait marrer. Ça s'est fait en fait en faisant des arrêts sur image sur un bonus DVD d'Olivier Marchal, où on le voyait préparer son film 36 Quai des Orfèvres. Et à chaque fois que je le voyais avec le scénario dans les mains, je faisais des arrêts pour voir comment était écrit le scénario en fait, comment ça se présentait une page. Et c'est comme ça que j'ai appris à présenter mon premier scénario. Donc on s'est rencontrés ensuite avec Olivier, on a fait entre autres le festival de Cognac ensemble, et ça l'a fait marrer quand je lui ai dit que j'avais tout appris comme ça, et finalement un peu grâce à lui, quoi, de façon détournée, mais voilà, donc je suis vraiment complètement autodidacte. Quoi. Ce qui est très con, alors je vais vous dire, je m'en suis rendu compte, alors c'est vraiment récent, c'est il y a quelques mois j'ai eu une discussion avec mon père à ce sujet, et qui avait été surpris quand il a vu que je devenais scénariste. Il me dit « jamais j'aurais imaginé ça ». Et j'ai dit « ben non, parce que je ne vous en ai jamais parlé ». Et je ne vous en ai jamais parlé, parce que j'étais persuadé que j'aurais droit au célèbre « passe ton bac d'abord ». Donc, aller faire une école de cinéma, hors de question. Et donc, j'en ai jamais parlé. Puis en fait, je me suis rendu compte, ben là, à plus de 40 piges, que finalement, j'ai été très con. Mes parents m'auraient dit « ben vas-y, Coco, fais ton école de cinéma ». Donc, j'ai peut-être perdu du temps, du coup. Mais voilà, ça s'est fait comme ça.
Et du coup, est-ce que le fait d'être autodidacte, parfois, ça vous a mis face à des obstacles ou des difficultés ?
Alors, dans ce milieu, dans ce métier, il n'y a que ça, des obstacles et des difficultés. Donc, moi, j'en ai eu plein, j'ai eu ma dose, j'en ai encore. Je ne sais pas, honnêtement, je ne saurais pas vous dire si j'en ai plus que quelqu'un qui a fait une école ou pas. De toute façon, c'est ce que je dis souvent quand on me demande de faire des masterclass, c'est ce que je dis aux gens, c'est que c'est un chemin de croix. Vraiment, faire un film. Alors pour le coup, ben là, je suis là pour vous parler d'une pièce. La pièce, finalement, ça a été beaucoup plus simple, finalement, mais je ne m'y attendais pas. Mais c'est vraiment un chemin de croix. Quoi, hein. C'est-à-dire que vous passez votre vie en tant que scénariste ou en tant qu'auteur à prendre des baffes. Vous écrivez un truc, vous êtes persuadé que c'est le best-seller, et même Spielberg va vous appeler dès le lendemain tellement c'est bon. Et puis en fait, très vite, les gens vous disent « non, ça va pas, ça tu changes, ça non plus ». Et donc voilà, en fait, on fait que ça, en fait. C'est vrai qu'on dit tout le temps qu'on écrit tout le temps, quand on est auteur. Alors c'est pas qu'on écrit tout le temps des nouvelles histoires, c'est souvent qu'on réécrit en fait la même 50 fois, quoi, pour qu'elle convienne.
Et finalement, cette réécriture qu'on vous impose, est-ce que vous, en tant qu'auteur, vous sentez que c'est une sorte de... ça dénature l'œuvre telle que vous la voyez dès le départ ? Ou c'est plus une adaptation pour coller aux besoins ou pour le mieux?
Alors là, je vais me faire des amis. On va parler franchement. Il y a des modifications. En fait, il y a plusieurs niveaux, si vous voulez. Quand vous écrivez, vous avez déjà, généralement, vous essayez de vous rapprocher d'un réalisateur. Je parle en film, hein, là, pas en théâtre. Vous essayez de vous approcher d'un réalisateur qui va vous proposer d'adapter. Donc là, il va falloir réécrire plein de choses vues avec lui. Mais là, on sent que c'est vraiment dans l'intérêt du film potentiel à tourner. Ensuite, vous allez le montrer à un producteur. Alors là, le temps commence à se couvrir. Parce que généralement, le producteur va avoir une lecture qui n'est pas forcément la vôtre. C'est-à-dire que vous avez une lecture, qui est une approche qui est plus artistique. Le producteur va avoir une dimension nettement plus financière. C'est-à-dire que si vous voulez faire péter tout un quartier dans un film d'action, lui va vous expliquer que quand même aller dans un terrain vague et tirer un coup de pistolet dans une portière de 4L, c'est vachement mieux. Et ça sera plus efficace pour l'émotion, pour le public. Ouais. Voilà, donc il y a... Il y a différentes strates de la réécriture. Il y a des moments où ça passe, des moments où ça passe moins. Voilà.
D'accord. Donc Richard Roulet, vous avez fait des œuvres extrêmement variées, hein, pour vraiment sortir de toutes les cases. Vous avez fait du film, du téléfilm, des pièces de théâtre, des romans policiers et j'en passe. Vous avez parlé notamment à vos débuts quand vous préfériez les scénarios donc pour s'abroger de l'aspect romancé.
Ouais.
Vous diriez que ça, en tant qu'écrivain, il y a des différences fondamentales entre l'écriture de tout ça ou comment vous imaginez en fait l'écriture d'une nouvelle œuvre ? Est-ce que vous partez du format sur lequel il va être projeté ou adapté ou c'est vraiment une histoire et ensuite vous voyez où ça vous mène ?
Alors pour l'instant, de ma modeste expérience, en fait, je travaille à l'envers. C'est-à-dire que généralement, je pars du scénario. Mon optique dès le départ, la plupart du temps, c'est de faire un film. Donc j'écris le scénario. Après, il y a des scénarios qui sont plus ou moins bons. Il y en a qui sont plus ou moins adaptables et tournables. Et il y a des fois des scénarios où vous vous dites, on ne le fera jamais. Je pense là, par exemple, à un de mes romans qui s'appelait Martin, qui était une histoire avec un requin, une histoire d'amour, entre guillemets, d'amitié. En fait, entre des jeunes enfants, donc ça serait plutôt à La Réunion, et avec un bébé requin. Là, forcément, amener ça à un producteur en France, c'est même pas la peine d'y penser. Mais tous les gens qui l'avaient lu me disaient « l'histoire est géniale et c'est dommage parce que du coup, ce truc ne va pas vivre ». Et donc, c'est comme ça que je l'ai adapté en fait en roman. Donc normalement, on part d'un roman qui a plu et on l'adapte en film. Et moi, généralement, tous mes romans quasiment sont des scénarios qui ont été adaptés en roman. En fait, on a fait l'inverse. Quoi.
D'accord.
Et là, je suis même en train de faire, là, sur mon dernier roman, je suis presque en train de faire la pirouette, puisque c'était un scénario au départ. C'est Manzana Verde, qui est un polar. C'était un scénario au départ. J'en ai fait un roman, Manzana Verde. Comme l'histoire a plu à l'éditeur, on a poussé, on a fait Manzana Verde, volume 2. Et maintenant, je suis en train de réfléchir ces deux volumes à les ramener sur un seul film, en fait. Donc en fait, on aura fait la boucle complète, du coup.
Ok, une expérience transmédia, comme on dit.
C'est particulier, quoi. Je ne sais pas si ça ira au bout, hein, de toute façon, mais c'est vrai que c'est marrant, parce que ce n'est pas du tout la même chose au niveau écriture, techniquement. C'est-à-dire que moi, la première fois que j'ai... En fait, c'était sur un tournage, un jour, j'ai rencontré un auteur de roman. Et je lui expliquais, moi qui étais donc scénariste, je lui dis, je sais pas comment tu fais, moi roman, j'y arrive pas, ça me paraît, c'est un truc infaisable. Et lui était mort de rire, il me dit, mais moi qui il en était à 20 ou 30 romans édités, il me dit, moi tu m'épates, je serais infoutu de faire un scénario. Et donc on s'est mis à discuter tous les deux, et il m'a donné des clés, et où du coup je suis content, parce que finalement depuis moi j'ai fait des romans, et lui n'a toujours pas fait de scénario, donc je me suis mieux démerdé que lui sur l'opération.
Manzana Verde aussi qui a eu un prix de l'année dernière.
Oui, à Saint-Estèphe.
Le prix du polar.
Oui. Ouais. J'étais content parce qu'en plus, c'était particulier, c'est un prix qui n'existait pas au départ sur leur festival. Et ils ont, parce que c'est un peu la mode, il y a de plus en plus de polars qui sont écrits. Parce qu'en fait, on vit polar maintenant. Alors, c'est particulier à la France, mais c'est vrai qu'à la télé, les unitaires, donc les téléfilms, c'est du polar. Les séries, c'est du polar. les romans, c'est du polar. On vit plus que polar en France. Et ils n'avaient pas cette case. En fait, ils s'en sont rendus compte. Ils ont dit tous les ans, donc ils prenaient les romans qui étaient présentés pour leur concours. Et puis cette année-là, ils ont dit, mais merde, on se retrouve, on n'a presque plus que du polar. Et nous, on a des prix premier roman, roman enfant, histoire d'amour, on est comme des cons, on n'a que des polars. Donc ils ont créé la catégorie polar et j'ai été le premier à l'avoir.
Voilà. Ah, c'est super.
Donc ouais, je suis assez content du coup.
Alors vous êtes aussi à nos micros aujourd'hui, Richard, pour nous parler d'une pièce de théâtre que vous avez écrite, que l'on peut voir en ce moment au Trianon à Bordeaux, c'est Braquage en héritage. Qu'est-ce qu'elle raconte cette pièce ?
Ben en fait, ben vous voyez, finalement, la transition est faite parce que c'est à force de faire du polar. Un jour, je me suis dit, c'est bon, pour moi, en écriture, le théâtre, c'est presque la récréation. Cela, du coup, vous n'avez plus que les dialogues à faire. Moi, les dialogues, c'est ce qui me plaît le plus. Et vous n'avez pas tous les placements de comédiens, d'ouverture de porte. C'est un hôtel, il fait jour, il fait nuit, il n'y a plus tout ça. Donc, c'est vraiment la récré pour moi. Et comme je me retrouvais à écrire que du polar, je me suis dit, un truc qui serait marrant, c'est de faire une comédie. Ce théâtre, je trouve que ça se prête plus à la comédie, le théâtre. Et je me suis dit, il faudrait qu'on prenne tous les codes que les gens connaissent. Parce que maintenant, les gens sont presque tous flics, à force de bouffer du polar. J'ai tous les codes que les gens connaissent, les prendre, mais les détourner à l'inverse. Donc, du coup, je suis parti sur le braquage de banque. Parce que, bon, en pièce comique, faire un viol ou un meurtre, c'était compliqué. Donc, je suis parti du braquage de banque. Je me suis dit, bon, il faut qu'il rate. Donc, s'il rate, après, y a une prise d'otage, mais il faut qu'elle rate aussi. L'intervention de la police, mais il faut qu'elle rate. Et voilà. Et c'est en faisant tout ça que finalement, Braquage s'est construit, quoi.
Donc, Braquage en héritage, ça raconte l'histoire d'un braqueur qui se réfugie en face, qui se planque en face de la banque qu'il a attaquée.
Bah, il fait au plus court, parce qu'il ne pensait pas que les flics arriveraient si vite. Parce que la légende dit que les flics arrivent toujours trop tard. Donc, lui, il pensait que pour lui, ça serait bon. Eh ben, sauf que pour lui, c'est pas bon parce qu'ils arrivent pile poil. Et donc, eh ben, il se réfugie là où il peut et là où il trouve une porte ouverte, en fait. C'est la panique à bord. Et puis, du coup, eh ben, il va prendre les gens qui sont dans l'appartement en otage pour essayer de s'en sortir. Ouais.
Le problème, c'est que c'est pas le seul à avoir cette idée.
Alors, c'est pas que c'est pas le seul à avoir cette idée, c'est qu'il s'attendait pas à tomber chez ces gens-là, en fait. Alors, sans tout révéler de la
d'accord.
pièce.
Parce que c'est dans le résumé, donc c'est
pour oui, c'est pour ça que ça, on peut le dire, parce que les gens le savent, c'est qu'en fait, cet appartement qui est en face d'une petite agence de banque, c'est l'appartement de François Santini, qui est l'ennemi public numéro un qui est recherché par toutes les polices. C'est sa planque. Et en fait, c'est le seul où la porte n'était pas fermée, où le braqueur va se réfugier. Et il va se retrouver chez le plus grand truand français. Ouais.
Alors, est-ce que c'est un huis clos ? Cette pièce.
Ah oui,
complètement.
Oui.
On reste dans l'appartement.
On n'est même pas dans l'appartement, on est dans un tout petit coin de l'appartement, en fait. C'est vraiment. On est sur une toute petite pièce, parce que c'est une planque, c'est pas du tout un appartement. Comme on voit souvent dans le théâtre de boulevard, c'est souvent un appartement haussmannien,
oui,
à Paris, voilà, super, avec le canapé en cuir en plein milieu de la scène.
Et le placard pour l'amant. Hein.
Voilà, là, il n'y a rien, c'est une planque. Donc là, c'est vraiment, il n'y a rien du tout. Ouais.
Alors, c'est une pièce pour combien d'acteurs ? Il y a combien de...
Ils sont 4 sur scène.
4 comédiens, d'accord.
4 sur scène. La toute première version, il y avait 2 hommes, 2 femmes. Et puis finalement, vous avez gagné, la parité, tout ça. Du coup, il n'y a plus qu'un homme et 3 femmes maintenant.
L'immersion, c'est une notion qui vous est très chère, Richard Roulet. Comment vous vous y prenez dans cette pièce de théâtre pour vraiment plonger le spectateur dans la pièce ?
Alors, déjà, le spectateur y est de lui-même. C'est comme je vous disais, c'est vrai que quand vous discutez un peu avec tout le monde est presque finalement au moins brigadier en police. Donc tout le monde connaît finalement une technique d'enquête. Il y a eu tellement de modes de séries télé que maintenant on a l'impression que même tout le monde pourrait être médecin légiste. Et tout le monde arrive à tout analyser. Tout le monde est très fort en cuisine aussi, maintenant qu'il y a les émissions culinaires. Dès qu'on est au resto, on entend des gens qui disent « Ah, ça manque de croquant, c'est un peu trop salé. Oh, » Voilà, tout le monde est pro dans tous les domaines. Et donc, c'est immersif parce que j'ai fait exprès de ne pas ramener des trucs super pointus et d'être vraiment sur ce que les gens connaissent, ce qu'ils entendent tout le temps. C'est une musique qu'ils ont en permanence maintenant. Le truc du négociateur, du raid... Le truc de droguer, d'essayer d'endormir le preneur d'otages, de négocier la rançon, tout ça, c'est des trucs que les gens connaissent de eux-mêmes. Donc en fait, c'est très vite immersif parce que de ce point de vue-là, il n'y a aucune surprise. Quoi. Les surprises, elles sont ailleurs.
Elles sont ailleurs, d'accord. Donc pour ça, on invite évidemment les auditeurs à aller voir la pièce. Donc c'est une comédie en huis clos.
Ouais.
Justement, cette comédie, vous utilisez quel ressort comique ? Est-ce qu'il y a du burlesque ? Est-ce qu'il y a
de l'absurde ? Voilà, c'est un mélange de burlesque, de fédo. Alors, il n'y a pas de porte qui claque, parce que très vite, les portes, alors pour le coup, elles claquent à l'arrivée de la police, donc il n'y a plus de porte. Donc, on ne peut plus les faire claquer. Mais c'est, dans l'esprit, c'est du fédo, en fait. Hein. C'est de la vraie comédie de boulevard, avec les gens qui se promènent, avec des effets de surprise, parce que les gens se découvrent au fur et à mesure que la pièce avance, parce que les gens ne sont pas... En fait, finalement, chacun n'est pas celui qu'il croyait être. Donc, il y a tout un tas d'effets de surprise sur chaque personnage. C'est vrai que c'est difficile d'en dire plus, parce qu'il y a toute une progression dans la pièce, et qui fait que si je vous dis tout maintenant, tout le final tombe à plat.
On ne va pas du tout gâcher la découverte. Mais, c'est pas notre genre à passage.
Mais voilà, mais dans l'esprit, c'est vraiment, c'est du fédo, quoi, hein, c'est du théâtre burlesque. Le rôle principal masculin, c'est le seul. C'est Jean-Marc Druet, mais qui est en gros le rôle principal dans l'histoire, qui est donc le fameux truand, François Santini. Il a même des moments, je lui ai dit, hein, donc c'est pas une surprise, il y a des moments où il surfe entre Louis de Funès dans ses réactions.
D'accord.
Et il a énormément aussi, pour les plus anciens qui se souviennent, il a énormément de Jean Poiré dans son phrasé, même physiquement. Bon, là, il a les cheveux longs, mais je pense que si on lui coupait les cheveux, ça pourrait faire l'illusion, quoi.
C'est une pièce qui dure combien de temps ?
Alors, normalement, ça dure 1h30, maxi, parce qu'après, il y a des soirs, comme c'est une pièce qui est très rythmée, qui va très vite, c'est une prise d'otage, il y a des soirs où on est sur un tout petit peu moins, on fait 1h25, quoi. Mais en gros, c'est 1h30. Quoi.
D'accord. Donc, on peut le revoir, on le redit au Trianon à Bordeaux. La pièce, elle est sortie le 13 janvier. Est-ce que vous avez des retours des spectateurs ?
Alors, on a plein de retours et ils sont bons, donc on est contents. Alors déjà la pièce devait se jouer de mémoire jusqu'au 20 avril à l'origine. Là on est déjà prolongé jusqu'au 24 mai puisque ça part fort. On s'attendait pas à ce que ça parte aussi fort. Alors, moi je savais pas du tout parce que je suis vraiment novice hein, en théâtre. C'est ma première pièce qui est montée. Et Xavier Vitton, qui est le directeur du théâtre, me disait un truc l'autre jour. Il me disait tu sais, on a fait la première, donc le vendredi, c'était le 20 janvier. La seconde, le samedi, on était complet. Il me dit, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du Trianon. Donc on est plutôt content. On espère que ça va continuer
comme
ça.
Que des bonnes nouvelles pour l'instant.
Pour l'instant, c'est pas mal. Ouais. Ouais.
Alors Xavier Vitton, qui est le directeur du théâtre, c'est lui aussi qui s'est chargé de la mise en scène.
Il fait la mise en scène. Alors en plus, il est comédien hein, dans la vie.
Oui, c'est
Xavier.
Ça, il est comédien, il a étudié au conservatoire.
C'est un touche-à-tout, ouais. Lui aussi, ouais.
Donc la mise en scène, on l'a légèrement abordée. Est-ce qu'on peut en révéler un petit peu plus ou ça gâcherait la surprise ?
Alors, on peut l'aborder parce qu'il a énormément bossé.
Ah bah super.
Parce que pour le coup, le livret, c'est-à-dire le texte, en fait, le scénario de départ de la pièce, a énormément évolué par son travail à lui, par le travail des comédiens aussi en répétition, qui ont amené énormément de choses à leur personnage. Je pense entre autres à une des jeunes actrices, qui est Fred Desmours, qui a amené le personnage à un niveau où même moi en écrivant je l'aurais jamais imaginé. Donc il y a vraiment un super boulot d'adaptation de tout le monde. Quoi.
Et scéniquement, ça ressemble à quoi alors cette mise en scène ?
Alors scéniquement, pour vous faire le sans tout dévoiler, moi quand j'écrivais, j'imaginais modestement ma prise d'otage, une intervention de police, toc toc, on frappe à la porte et puis on essaye de jouer, de négocier, tout ça. Quand Xavier Vitton prend le truc en main, il fait ce que je pensais même pas possible, moi, à faire au théâtre. Donc c'est la porte qui explose, mais en vrai. La porte explose, donc il y a des fumigènes, il y a des morceaux qui partent partout, il y a tous les bruitages de police, on a l'impression qu'il y a une compagnie de CRS en vrai qui est derrière le théâtre. C'est tout ça, la mise en scène, il y a vraiment un... Moi c'est ce que j'appelle l'habillage, si vous voulez, il y a le texte, il y a le jeu des comédiens, et après il y a tout l'enrobage, en fait, et c'est ce qu'a amené Xavier, quoi, qui est vraiment très important.
Donc il y a un côté assez spectaculaire et peut-être un peu cinématographique dans cette pièce de théâtre.
Bah c'est, moi, il y a plein de gens, justement, qui me l'ont dit en sortant de projection, qui m'ont dit, c'est un film qu'on a vu, c'est même pas une pièce. Parce que souvent, la comédie de boulevard, on est quand même très vite dans le mari, le cocu, l'amant. Là, on est quand même dans une comédie policière. Donc il y a quand même une trame avec une vraie prise d'otage qui est en train de se dérouler, bon, qui fait marrer tout le monde, mais qui se déroule comme une vraie prise d'otage. Donc il y a plein de moments. Alors du coup, des fois, nous, on est même frustrés parce qu'on se dit, tiens, les gens n'ont pas ri, alors que là, il y avait des vannes en pensée. Et quand j'ai demandé, moi, aux gens, les premières représentations, on leur dit, ça vous a pas fait rire? Et les mecs m'ont dit, mais c'est pas ça, c'est qu'on n'a pas le temps de rire, parce que sinon, on loupe la progression de l'enquête, quoi, et on veut tout écouter. Donc non, ça marche très très bien.
Ouais. Donc il faut se préparer, c'est un rythme effréné, ça vanne super vite.
Alors le premier acte est plus lent, dans la compréhension on va dire, mais très rapide dans toutes les infos qui a passé, parce que c'est le premier acte qui met en place tout, qui échafaude tout, et puis c'est après que ça monte crescendo, voilà, et puis ça s'arrêtera plus jusqu'à la fin, quoi.
Les prochaines représentations, c'est ce vendredi et ce samedi. Il y a plein d'autres dates jusqu'au 24 mai, donc on peut les retrouver en ligne.
On les retrouve en ligne un peu partout, sur le site du théâtre, sur Aubillet, sur tous les sites habituels. Faut faire attention, parce que souvent je dis que c'est tous les week-ends. Mais il y a des semaines, par exemple la semaine prochaine, où je sais que c'est décalé de mémoire, je crois que c'est le mercredi et le jeudi. Ça ne sera pas le week-end, voilà. Donc il faut faire gaffe, parce que selon les semaines, ce n'est pas forcément vendredi, samedi.
Donc faites attention, chers auditeurs, hein, avec vos agendas, vous tapez Braquage en héritage Bordeaux et vous trouvez toutes les dates. Attention au soir, c'est une pièce qu'on peut voir à partir de 26 euros. Et aussi, est-ce qu'on peut se procurer ou on pourra se procurer la pièce pour la lire? Parce que le théâtre, ça se lit aussi.
Alors je sais pas, moi j'aimerais bien. Bon, le texte est dispo, donc s'il y a des éditeurs qui veulent le prendre, qu'ils le prennent. Mais alors ça, ce qui serait marrant, c'est que si ça pouvait se faire, il faudrait que, à mon sens, il faudrait que ça soit la version que vous pouvez voir sur scène, qui n'est pas le texte d'origine. C'est intéressant d'avoir la version adaptée par Xavier, qui du coup est une version un peu upgradée, on va dire, de la version d'origine.
D'accord. Alors Richard Roulet, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette pièce de théâtre, Braquage en héritage?
Qu'il faut venir la voir, voilà.
Tout simplement.
Tout simplement. non, il y a... On dit tout le temps, ouais, il y a le temps, c'est jusqu'au 24 mai. Mais en fait, ça passe quand même très vite. Avec les comédiens, on s'est rendu compte, j'étais avec eux le week-end dernier, et on s'est dit, oh, on est déjà sur notre quatrième semaine, et ça nous paraît fou, on a l'impression qu'on a commencé hier. Ouais.
Est-ce que, avant qu'on se quitte, est-ce que vous avez d'autres annonces ou des actualités à nous communiquer, de futurs projets, des futures œuvres qui nous attendent?
Alors là, y en a plein. Il y en a plein sur le grill, donc là, c'est compliqué. En livre... Parce que ça, c'est officiel. Donc un livre, on espère d'ici la fin de l'année, il va sortir, on pense, juste avant les fêtes. J'ai réussi à convaincre mon copain Martin Lamotte. Et donc on travaille tous les deux ensemble sur sa biographie. C'est la première fois qu'il se livre. Il ne fait jamais d'émission pour parler de lui, ni à la radio, ni à la télé. Donc ça va être vraiment la première fois avec que des photos à lui. Donc que des photos perso, aucune qu'on aurait pu trouver dans la presse ou sur Internet. Donc ça va être vraiment un chouette moment. Après, en télé, on est en négociation. J'étais encore cet après-midi au téléphone. On est en négociation avec France 3 pour un Meurtra. La collection des Meurtras, on reste dans le polar, quoi. Et sinon, j'ai pas mal de projets sur lesquels je travaille. Alors là, je peux pas trop en dire parce que c'est un peu top secret.
D'accord.
Mais je travaille entre autres avec Olivier Mégaton. Sur du long métrage cinéma, sur de la série télé, voilà, on a plusieurs projets sur le grill.
Affaire à suivre alors, Richard.
Oui.
Bien, merci beaucoup d'être venu à Radio Campus Bordeaux pour nous présenter la pièce Braquage en héritage qu'on vous invite à aller voir. C'est au Théâtre du Trianon jusqu'au 24 mai, mais attention, ça passe vite, comme on l'a dit.
Oui.
Richard, on
donc
vous souhaite...
réservé.
Et oui, ah oui, voilà, il faut réserver, c'est important. Richard, on vous souhaite de belles publications et évidemment de belles représentations.
Ben, merci beaucoup.
Et à très bientôt.
Eh bien, j'espère, oui, avec plaisir.